En 1974, une jeune étudiante a été tuée de sang-froid.
Cheryl Miller avait été violée et assassinée violemment.
Son vaste cercle d'amis et d'amants produit de nombreux suspects.
Bien des gens la connaissaient. Ils avaient fait la fête avec elle. C'était l'époque où régnait le sexe et la drogue.
Je voulais en savoir plus long sur M. Ferris, sur Tony Alvarez et sur M. Esfahani.
Une enquête frustrante s'étale sur 3 décennies.
C'est quoi ?
Il voulait qu'on trouve le coupable pour le mettre en prison.
La criminalistique pourra-t-elle identifier le tueur ? Cette reconstitution est basée sur le récit de témoins, les preuves de la police et les dossiers judiciaires. À Saginaw, au Michigan, Maxine Gutierrez rentre chez elle à 6 heures après avoir fêté toute la nuit. Elle cherche sa colocataire Cheryl Miller. La police se rend au domicile situé dans l'est de cette ville ouvrière de 100 000 habitants. Les enquêteurs entrent dans la chambre de Cheryl Miller pour jeter un premier coup d'œil à la scène troublante. Tom Reeder est l'enquêteur principal dans cette affaire.
On m'a informé du meurtre de Cheryl Miller. J'ai moi-même développé les photos que notre technicien d'identité judiciaire a prises de la scène de crime. La victime portait une chemise bleue. Des sous-vêtements étaient étendus sur sa poitrine. Elle avait des éraflures à la clavicule et elle avait saigné du nez. On voyait des marques sur son cou.
D'après ses blessures, les agents tirent une sombre conclusion. Dans le salon au rez-de-chaussée, il y a des traces d'effraction.
La fenêtre était ouverte et la moustiquaire était décrochée. Le rideau pendait à l'extérieur. On aurait dit qu'un individu était entré et qu'il avait renversé une lampe. Puis, il serait monté à l'étage. C'est là qu'il aurait trouvé Cheryl. On a pris des mesures et on a relevé des empreintes. Puis on a étiqueté les éléments de preuve, dont les vêtements sur sa poitrine.
On recueille plusieurs cheveux et poils sur la chemise et le corps de la victime. On les envoie au laboratoire. On retrouve 4 séries d'empreintes suspectes, situées respectivement sur la fenêtre du salon, sur la rampe de l'escalier, sur le mur au-dessus de la toilette et sur la commode, près de la tête de Cheryl Miller. Maxine Gutierrez dit aux agents que sa colocataire de 21 ans était populaire. Elle étudiait les arts au Delta College, situé non loin de là.
We went to a bar around the corner here.
Selon Maxine, Cheryl et elle avaient passé la veille au soir à s'amuser avec leur bande habituelle dans un bar populaire du coin appelé The Scene.
Le 14 juin était un vendredi, alors il y avait du monde. Le bar était bondé.
D'après Maxine, Cheryl est repartie chez elle vers 2 heures. Les enquêteurs se demandent qui aurait pu être aussi brutal avec cette jolie jeune femme. On espère que l'autopsie révélera des indices quant à l'identité du tueur. Le pathologiste établit l'heure du décès entre 5h30 et 6h. La cause du décès est la strangulation. Une petite déchirure vaginale et la présence de sperme confirment qu'il y a eu viol. Le pathologiste dépose du sperme sur des lames qu'il étudie au microscope. Comme il ne trouve aucun spermatozoïde dans le liquide, il déclare dans son rapport que le tueur doit être stérile. On soumet les lames de microscope et le rapport à un expert en criminalistique, Richard Bisping.
This just came in.
Je travaillais au laboratoire East Lansing de la police de l'État du Michigan. J'étais responsable de la sérologie et des preuves biologiques. J'ai donc procédé à l'identification du sang et du sperme, puis à l'identification et à la comparaison des cheveux, des poils, des fibres et d'autres éléments de preuve. À l'époque, on ne testait pas l'ADN.
Richard Bisping décide d'étudier le sperme sur les lames de microscope pour tâcher d'identifier un suspect.
Au microscope, je n'ai vu aucun spermatozoïde dans le sperme sur les lames. C'était la seule analyse possible.
L'expert examine alors les cheveux et les poils, des éléments de preuve que lui ont fournis les enquêteurs.
Ils ont trouvé des cheveux, des sourcils et des poils pubiens de couleur foncée, mais non négroïdes. C'était des cheveux et des poils noirs de type probablement asiatique, méditerranéen ou hispanique.
La police recherche un tueur aux cheveux foncés. En interrogeant des proches de la victime, on cible un premier suspect, Abbas Esfahani.
C'était un étudiant de Delta College. Il avait 21 ans et il était iranien. Il était venu de l'étranger pour jouer au soccer. Il a fait partie de la première équipe de soccer de Delta College.
Abbas Esfahani et Cheryl Miller venaient tout juste de mettre fin à leur liaison amoureuse. La mère de Cheryl apprend aux enquêteurs que quelques jours avant sa mort, sa fille lui avait confié que Abbas Esfahani digérait mal leur rupture. Des témoins les ont vus ensemble le fameux soir du 14 juin.
Le soir de sa mort, elle parlait avec lui au bar de Sine.
On a su qu'elle l'avait quitté un jour ou deux auparavant.
Le jeune Iranien était agressif et elle en avait assez de se faire harceler. Les enquêteurs obtiennent ses empreintes du bureau des étudiants étrangers.
L'empreinte de pouce sur la rampe appartenait à Abbas Esfahani. La police de l'État a prouvé que c'était son empreinte.
La police pense avoir trouvé l'homme qui a tué Cheryl Miller. Les agents vont arrêter leur principal suspect à son appartement. Ils constatent que Abbas Esfahani est parti depuis longtemps.
Il avait vendu son véhicule et il s'était acheté un billet d'avion pour rentrer en Iran. Il n'est jamais revenu.
L'amoureux rejeté est devenu un fugitif. On reconstitue les faits tragiques entourant la mort de Cheryl Miller. Abbas était indigné quand Cheryl a décidé de rompre. Elle a refusé de se réconcilier avec lui au bar The Scene le soir du 14 juin. Aveuglé par la rage, l'étudiant étranger se serait introduit chez elle et il aurait monté l'escalier vers sa chambre. Puis, il l'aurait attaqué férocement pour la violer. Le suspect a fui, mais il a oublié un séchoir à cheveux avec brosse intégrée. L'appareil peut fournir des éléments de preuve qui le situeraient sur les lieux du crime. On lance des mandats d'arrestation et de fuite illégale contre Esfahani. La police fait encore appel à Richard Bisping.
Notre premier échantillon de cheveux du suspect provenait d'une brosse qu'on avait trouvée dans l'appartement où il vivait. J'ai constaté des similarités entre les cheveux de la brosse et ceux prélevés sur la victime.
L'expert sait que les cheveux sont peu fiables en tant qu'élément de preuve.
On ne pouvait pas confirmer à qui appartenait la brosse et si elle contenait des cheveux de différentes personnes. Il fallait donc recueillir un échantillon de cheveux authentique de cet individu.
Tom Reeder essaie d'obtenir des échantillons de poils et de cheveux de Abbas Esfahani. Cette tâche s'avère difficile.
J'ai contacté des agents d'Interpol qui ont ensuite communiqué avec le gouvernement iranien à Téhéran pour demander ces échantillons.
Mais Richard Bisbing reçoit des échantillons d'apparence douteuse.
Il m'a dit qu'à son avis, il s'agissait de poils du postérieur d'un chameau. Ce n'étaient pas des cheveux humains. J'ai donc rappelé Interpol. L'agent avec qui j'avais traité est allé lui-même en Iran. Il a emmené Abbas Esfahani à l'hôpital. Il a pris des photos tandis qu'on prélevait des échantillons de poils et de cheveux, puis qu'on les scellait dans une enveloppe. Et il a rapporté l'enveloppe aux États-Unis.
En 1974, la seule façon de comparer des cheveux consistait à évaluer au microscope les caractéristiques comme la couleur, la longueur et d'autres détails.
Après un examen minutieux, l'expert livre une mauvaise nouvelle aux enquêteurs.
Il ne correspondait pas à ce trouvé sur la victime.
Le principal suspect n'est plus considéré comme étant un tueur potentiel. Tom Reeder doit cibler un autre individu. Il concentre son attention sur le cercle d'amis de Cheryl Miller, qui est plutôt considérable.
Ces jeunes faisaient la fête ensemble et ils se fréquentaient tous entre eux.
Il y avait souvent des soirées chez Cheryl et Maxine Gutierrez.
J'ai rencontré bien des gens qui la connaissaient. Ils avaient fait la fête avec elle. Certains avaient même eu des rapports sexuels avec elle. C'était l'époque où régnait le sexe et la drogue. Elle avait eu plusieurs partenaires durant cette période.
Maxine confie à Tom Reeder que son cousin, Tony Alvarez, avait habité chez elle durant un certain temps avant le meurtre.
C'était un homme de type hispanique aux cheveux noirs. Il était donc possible que ses poils et ses cheveux soient liés à l'affaire.
Les deux s'étaient liés d'amitié. Quand on l'interroge, Tony Alvarez avoue qu'il était attiré par Cheryl. Tom Reeder demande des échantillons à son nouveau suspect.
Il m'a donné des sourcils, des cheveux et des poils pubiens.
On envoie vite les échantillons au laboratoire.
Dès le départ, on a vu que ses cheveux, ses sourcils et ses poils pubiens ressemblaient à ceux qu'on avait recueillis sur la victime.
Une fois de plus, Tom Reeder pense avoir trouvé le tueur. Mais comme on détient peu d'éléments de preuve, on fait passer à Tony Alvarez un test polygraphique.
Did you enter Cheryl Miller's bedroom on the evening of June 14th, 1974?
No.
Il a échoué. Le polygraphiste m'a dit qu'il croyait que Tony Alvarez avait commis le meurtre.
Tom Reeder pousse Tony Alvarez à avouer en lui expliquant sa théorie, à savoir pourquoi et comment il a assassiné Cheryl Miller. Puisqu'elle ne le trouvait pas attirant, Tony serait devenu jaloux de ses amants. Il aurait épié Cheryl de loin. Sa jalousie aurait augmenté jusqu'à en devenir intolérable. Il aurait voulu la posséder coûte que coûte.
Tony n'a pas admis qu'il avait commis ce crime. Alors on lui a fait passer un autre test polygraphique.
Did you rape Cheryl Miller?
No.
Cette fois, Tony Alvarez réussit le test.
On a procédé à un troisième test polygraphique, que M. Alvarez a également réussi. Le troisième a donc annulé ses tests précédents.
Tom Reeder garde en tête Abbas Esfahani et Tony Alvarez. Mais il est en quête d'autres suspects. Bien vite, il rencontre un autre nom qui a été cité en rapport avec le meurtre, celui de Gabriel Ferris.
Quelqu'un pensait avoir vu Cheryl bavarder avec Gabriel Ferris dans le stationnement. Ce type n'avait pas été interrogé.
C'était le fils d'une famille influente qui possédait un magasin de fourrure à Saginaw, Ferris Furs.
Gabriel Ferris est connu en tant que revendeur de drogue. Tom Reeder apprend qu'il a eu une liaison intime avec Cheryl Miller.
Il avait aussi une réputation de tombeur. Alors c'était un type qui était à la fois dangereux et très charmeur.
Les enquêteurs fixent un rendez-vous à Gabriel Ferris.
Selon lui, il avait déjà été amoureux d'elle. Cheryl et lui avaient eu plusieurs rapports sexuels.
Were you at the scene the night of June the 14th?
No, are you kidding, man? I got married the night before.
He told me that he was on his honeymoon.
Il m'a dit qu'il était avec sa femme, Terry Fick, en voyage de noces à Point Lookout, qui se trouve à Augury, au Michigan. Selon lui, il consommait le mariage.
Point Lookout est situé à 105 km de Saginaw. Gabriel Ferris affirme que sa nouvelle épouse et lui sont allés au lit à 22 heures. Il raconte qu'il s'est réveillé à 5 heures et qu'il a flâné jusqu'à ce que Terry se lève à midi. Gabriel Ferris nomme des dizaines d'hommes qui auraient pu tuer Cheryl.
Cameron Roderick, Tim Luke et Morris.
J'ai enquêté sur chacun d'eux.
L'enquêteur ne découvre rien sur ces individus, mais il veut en savoir plus long sur Gabriel Ferris. Alors il contacte sa femme. Terry Fick confirme qu'elle et son mari ont passé toute la nuit dans un chalet. En interrogeant à nouveau des témoins, Tom Reeder ne trouve personne qui peut certifier que Gabriel Ferris était au bar avec Cheryl Miller le 14 juin. Gabriel Ferris semble avoir un alibi inattaquable. Tom Reeder obtient pourtant les empreintes du suspect puisqu'il a déjà été incarcéré pour possession de drogue. Il fait comparer ses empreintes à celles qu'on a prélevées sur la scène du crime.
On a trouvé les empreintes de Gabe Ferris à l'avant de la commode.
Tom Reeder est emballé par cette nouvelle. Toutefois, il sait que Gabriel et Cheryl avaient eu de fréquents rapports sexuels qui pourraient expliquer la présence des empreintes. Il sait également que son nouveau suspect est blond, contrairement aux cheveux et aux poils prélevés sur la victime. Il y a donc peu de chances qu'il soit le meurtrier. On continue donc à chercher un suspect potentiel.
J'ai passé en revue le dossier et j'ai vérifié chaque individu qui avait été mentionné, surtout les hommes aux cheveux foncés. Chacun d'eux a fini par être éliminé de la liste des suspects. J'ai enquêté ainsi sur une quantité faramineuse de gens. Il y en avait plus de 100 au total.
Tom Reeder repart à zéro. Mais pas tout à fait. Au cours des mois suivants, l'enquêteur reçoit plusieurs appels de l'homme qu'il a écarté en tant que suspect.
Yeah, we're still looking.
Paul, did you check out those cats I was telling you about? Did you check them out? You gotta check them out, man. Check them out, okay?
J'ai demandé à Gabe pourquoi il tenait à avoir autant d'informations sur l'affaire. Il m'a répondu qu'il voulait à tout prix qu'on trouve le coupable du meurtre pour le mettre en prison. Je l'ai assuré que j'y travaillais. Mais ses appels m'ont mis la puce à l'oreille.
Tom Reeder fixe de nouveau son attention sur Gabriel Ferris. Il apprend qu'un événement a eu lieu 2 jours avant le meurtre. Cheryl Miller avait fait une scène en apprenant que Gabriel Ferris l'avait laissé en plan pour aller voir sa fiancée.
What? That's why he didn't make it to the scene last night? He's getting married.
Yeah, Cheryl. So done with him.
Mais les recherches de l'enquêteur seront freinées à cause de la loi du silence qui prévaut dans le cercle d'amis du revendeur de drogue.
Got supplies here, people. Who wants some?
What's up? I'm a little short. All right, so, grab me some dispensation next week, okay?
Ces gens se méfient de la police et ils condamnent les délateurs. Il semblerait que Gabriel Ferris intimide ses pairs. Mais au fil du temps, l'agent Reeder réussit à leur délier la langue. En 1976, deux ans après le meurtre, le mariage de Gabriel Ferris est rompu depuis longtemps. Linda Fairbanks, sa nouvelle petite amie, a 16 ans. Elle relate un curieux événement à l'enquêteur.
We all drove to Ann Arbor, and me and Gabe and our friends Tom and Patty Skiba went for some drugs, you know. Am I gonna get arrested or anything for that?
Well, no, I don't think that's a problem. It is a murder investigation. I think you'll be okay.
So we just pulled over and partied.
Yeah. It's a shame. Well, ils fumaient de la marijuana dans la voiture. Pendant ce temps, quelqu'un a demandé à Gabe de leur parler de Cheryl Miller. Il s'est mis à commenter l'enquête sur le meurtre. Il a empoigné la pue-tête comme s'il allait étrangler quelqu'un. Il a dit que le meurtrier ne voulait pas la tuer. Il a ajouté qu'il savait pertinemment que c'était un accident.
I couldn't tell if he was talking about himself or putting himself in the killer's shoes. Anyway, it was really upsetting.
On interroge séparément Tom et Patty Skiba qui racontent la même anecdote. Puis, lorsque Tom Reader questionne de nouveau Terry Fick, l'ex-femme de Gabriel Ferris, celle-ci change sa version des faits à propos de la nuit du meurtre.
Well, the first time that I woke up, it was, I remember being 2 a.m.
À son réveil, son mari avait disparu. Elle avait regardé autour d'elle, puis elle s'était recouchée. Elle s'était rendormie en se disant que c'était peut-être un rêve. Elle avait dû rêver qu'il était parti.
Then the next thing I heard was a car. Then the cottage door slammed. And I woke up and it was morning. Okay. Where were you?
I just went out for some breakfast.
Il portait un pantalon blanc. Il y avait une tache de sang de la taille d'une pièce d'un dollar sur sa cuisse.
Sa chemise était souillée de petites éclaboussures de sang.
How'd you get blood on your clothes?
This? Yeah, the rabbit with your car. It got lodged under the wheel.
Après le déjeuner, il a enlevé les vêtements qu'il portait cette nuit-là et il les a brûlés.
The thing is, I'm not sure if this was just a dream or if it really happened or not, you know?
Terry Fick avoue à l'enquêteur qu'elle a d'abord appuyé son mari par peur.
Elle était très nerveuse. Gabriel Ferris la terrifiait totalement. Elle pensait que sa vie était en danger.
L'alibi de Gabriel Ferris vient de s'écrouler. Tom Reader croit détenir des arguments assez solides pour faire arrêter son principal suspect. Mais le procureur de l'État n'est pas du même avis.
Il m'a téléphoné pour me dire qu'on ne pouvait pas prendre le risque de porter cette affaire devant les tribunaux sans avoir d'autres preuves corroborantes.
Le procureur de l'État soutient que les arguments reposent sur des preuves circonstancielles. Selon lui, l'agent Reader doit trouver une preuve tangible contre Gabriel Ferris pour qu'on puisse accuser ce dernier. L'enquêteur passera les 8 prochaines années à chercher cette preuve tangible.
J'ai travaillé à cette enquête chaque semaine sans exception. Je passais le dossier en revue, ou j'allais au bar The Scene. Je n'arrivais pas à mettre la main sur cette preuve tangible.
Le meurtre de Cheryl Miller hante Tom Reader jusqu'à ce qu'il quitte la police en 1984.
C'était une affaire non résolue qu'on a ignorée pendant des années après ma retraite.
L'individu qui a tué Cheryl Miller est toujours en liberté. En 1994, 20 ans après le meurtre de Cheryl Miller, on demande à un enquêteur de revoir certains éléments de preuve. Roy Walton se spécialise dans les affaires non résolues.
Un superviseur m'a dit qu'on voulait me parler d'une affaire qui datait d'un certain temps.
Deux décennies plus tard, on pourra peut-être élucider le meurtre de Cheryl Miller. De nouveaux éléments de preuve qui ont fait surface ravivent l'intérêt de la police pour cette affaire.
Ils ont trouvé quelque chose dans le système automatisé d'identification dactyloscopique.
Des agents ont vérifié par hasard des empreintes de diverses affaires non résolues, dont celle du meurtre de Cheryl Miller. On identifie les empreintes qu'on avait prélevées à l'époque sur le mur de la salle de bain. Elles appartiennent à un certain Kevin Lee Grimes. Maintenant âgé de 50 ans, Kevin Lee Grimes travaille dans une usine de fabrication de la région. Mais en 1974, il faisait partie du cercle d'amis de Cheryl Miller et de Gabriel Ferris. Roy Walton interroge M. Grimes, puis il confirme que ce dernier avait visité les lieux du crime.
Il avait été chez elle lors d'une fête.
L'enquêteur avance que Kevin Lee Grimes a rencontré Cheryl et qu'il l'a trouvée attirante. Puis, il s'est introduit chez elle et il l'a tuée quand celle-ci a refusé ses avances sexuelles. En nettoyant les traces du crime, il a laissé son empreinte digitale au-dessus de la toilette. Monsieur Grimes explique qu'il était naturel qu'il soit allé aux toilettes durant la fête.
Il trouvait ça drôle d'avoir laissé une empreinte au-dessus de la toilette, alors qu'il était probablement saoul.
Mais il coopère avec la police et il a un alibi qu'on juge solide après l'avoir vérifié. Roy Walton ne peut tirer qu'une conclusion.
Monsieur Grimes n'avait rien eu à voir avec ce crime.
Toutefois, l'agent Walton a suffisamment de doutes pour ouvrir l'enquête. En étudiant les photos de la scène de crime, il note la disposition des vêtements sur le corps de Cheryl Miller.
Quelqu'un qui n'est pas un étranger pourrait très bien placer des vêtements sur le corps de la femme qu'il vient de tuer.
Il présume que la honte a poussé le coupable à couvrir le corps de la victime, ce qui indique qu'il la connaissait. Ses soupçons augmentent quand il examine l'endroit où le tueur se serait introduit sur les lieux. Le rideau et la moustiquaire ont été poussés vers l'extérieur et non vers l'intérieur.
Je n'ai jamais cru que quelqu'un s'était introduit par effraction. À mon avis, le meurtrier voulait maquiller son crime.
Roy Walton pense que le tueur est entré par la porte de la cuisine qui était généralement déverrouillée.
Cheryl connaissait l'individu qui est entré chez elle. J'ai suivi mon instinct de policier. Après avoir révisé les éléments qu'on m'avait fournis, je voulais en savoir plus long sur M. Ferris, sur Tony Alvarez et sur M. Esfahani. Je devais donc questionner tous les gens que j'arriverais à retrouver pour formuler ma propre opinion sur les déclarations de ces trois hommes.
L'enquêteur interroge à nouveau près de 100 personnes. Il obtient de nouvelles informations quant aux allées et venues de Tony Alvarez la nuit du meurtre.
Cette nuit-là, il était à Bay City, où il vivait avec sa petite amie la plupart du temps. Cette ville est à 18 km au nord de Saginaw.
L'histoire de Abbas Esfahani s'éclaircit également.
J'ai compris pourquoi il avait quitté la ville. Son départ n'avait rien à voir avec le meurtre de Cheryl Miller. Il étudiait à temps plein au Delta College et il avait de la difficulté. Il n'a même pas réussi un cours. Il est simplement rentré dans son pays parce que son père avait cessé de payer l'éducation qu'il gaspillait.
Mais en questionnant Terry Fick, l'ex-femme de Gabriel Ferris, il décide de scruter le troisième suspect.
Elle craignait visiblement cet homme. Il avait des pratiques sexuelles assez agressives.
He was rough. He choked me. Tried to rape me. Anything to control me.
Dans sa déclaration originale, elle avait confirmé l'alibi de Gabriel Ferris. En 1976, elle a changé sa version des faits. 20 ans plus tard, elle la change encore une fois.
Okay. Go take care of some business, baby.
Elle a pleuré durant notre premier entretien. Elle avait même peur d'en parler.
Yeah, I came back in the morning with the rabbit blood, like I told you guys.
You mean the dream?
Yeah, that was no dream. It happened.
This?
That night he turned on the news, and we saw that
Cheryl had been killed.
Monsieur Ferris pleurait, mais il n'avait pas de larmes aux yeux.
Gabriel Ferris lui avait dit que s'il avait eu une dernière relation sexuelle avec Cheryl la nuit avant leur mariage, cette dernière serait peut-être encore vivante.
Elle ne nous avait pas dit ça, mais je n'ai pas senti qu'elle mentait. Elle ne faisait que décrire plus précisément ce qu'elle avait vécu.
Roy Walton découvre que 20 ans plus tard, les connaissances de Gabriel Ferris, qui méprisait les policiers, veulent maintenant agir comme il se doit.
Parfois, le temps apaise les peurs. Il fallait abattre les barrières qui nous séparaient.
Linda Fairbanks, l'ex-petite amie de Gabriel Ferris, a une trentaine d'années. Elle dévoile des détails sur lui qu'elle avait omis en 1976.
Elle ne nous avait pas menti, mais elle ne nous avait pas dit tous les faits.
Non, il n'a pas dit que le tueur
n'a pas voulu le faire. Qu'est-ce que tu veux dire, le tueur? Il a dit que je n'ai pas voulu le faire. Over and over again.
C'est fou,
c'est
hyperventilé. Like rough, you know?
Selon Linda Fairbanks, Gabriel Ferris avait avoué qu'il avait étranglé Cheryl pour augmenter son excitation. Elle était morte sans qu'il s'en rende compte. Les témoins se succèdent. Puis Roy Walton reçoit un appel inattendu d'un dénommé Leroy Hoffling.
Monsieur Hoffling m'a dit que Gabriel Ferris était un bon ami à lui. Ils vendaient et ils consommaient de la drogue ensemble.
Leroy Hoffling est un ancien combattant qui souffre d'avoir été exposé à l'agent Orange. Il veut libérer sa conscience avant de mourir. Leroy Hoffling dit avoir vu Gabriel Ferris se saouler et appeler Tom Reeder après le meurtre.
D'après Monsieur Hoffling, Gabriel Ferris voulait savoir à quel point les agents se rapprochaient de sa piste.
You guys are taking way too long, man.
La drogue aidant, Gabriel Ferris devenait de plus en plus bavard.
Went up to her room and everything, man. She told me to get out. She told me, why am I here? Why I'm married now? Like what?
You know, it is the age of Aquarius.
En fait, Gabriel Ferris a admis à Monsieur Hoffling qu'il avait tué Cheryl. Il s'était mis à se disputer avec elle et il l'avait tué par accident. Puis il avait paniqué et il s'était enfui.
L'agent Walton visite la dernière personne sur sa liste. Gabriel Ferris vit maintenant à Elgin, dans l'Illinois.
Lorsque j'ai rencontré M. Ferris, il ne ressemblait plus aux photos qu'on avait de lui. Il était presque chauve et il avait vieilli. Comme il était pauvre, il habitait dans une résidence qui appartenait à une église du coin.
Here you go, Gabe.
Thanks. Thanks for your time today. Why don't you take a look at this? This is your statement from the 70s.
On a discuté ensemble pendant près de 2 heures.
You know, Gabe, I'm a little confused. Are you changing your story?
Telling you. She was just one of 5 chicks I was banging back then.
Il y avait trop de détails qui ne concordaient pas avec sa déclaration originale.
Au départ, il avait affirmé être resté dans le chalet toute la nuit. Maintenant, il dit qu'il a été à divers endroits.
I remember now. I went for a walk down by the water.
You said you drove to the store.
You talking?
Did you walk to the water or did you drive to the store?
Yeah. I went to the store. And then I went for a walk.
Well, let me tell you what I think. I think you killed Cheryl Miller.
Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait tout me déballer. Puis, il s'est ravisé.
I got places to be. Roy, I didn't have nothing to do with this.
Mm-hmm. Je savais qu'en acceptant de me parler, il avait fait une erreur fatale.
Walton parle ensuite avec le colocataire actuel de Ferris qui lui confie quelque chose de fascinant.
Wait, say again. Said what?
Le lendemain de notre entretien, M. Ferris avait passé la journée chez lui à répéter que je l'avais démasqué. Il avait interdit à son colocataire de répondre au téléphone. Alors j'ai su que je le tenais. J'avais assez d'éléments de preuve pour qu'on lance un mandat contre lui.
L'agent Walton a vu juste. Le 15 janvier 1995, la police arrête Gabriel Ferris. On l'accuse du viol et du meurtre de Cheryl Miller, survenu 20 ans plus tôt. Le procès commence en 1996. La poursuite base ses arguments sur les témoignages de Linda Fairbanks, de Leroy Huffling, et sur le témoignage surprenant d'un petit voleur, Rodney Mays.
His cell was next to mine when we were in the Sag County lockup, and we struck up a conversation.
Monsieur Mays lui a demandé pourquoi il était là. Il a répondu qu'il avait tué une fille.
I was on my honeymoon. I was on my way to see Cheryl. She didn't want any part of me, so I killed her.
Personnellement, j'ai trouvé Monsieur Mays très crédible.
Les faits incriminent encore plus Gabriel Ferris lorsque deux témoins rétractent leur déclaration pour affirmer qu'ils se trouvaient au bar The Scene le soir du meurtre de Cheryl Miller.
Then when I woke up again at 2 a.m., he was gone.
Terry Fick, l'ex-femme de Gabriel Ferris, détruit non seulement son alibi, mais elle livre un témoignage terrible à son sujet. Il lui aurait fait subir des sévices physiques et sexuels à au moins 20 reprises avant et après leur mariage, dont une fois devant leurs amis.
No, Gabe, stop. No, I don't.
En janvier 1996, Gabriel Ferris est trouvé coupable du viol et du meurtre de Cheryl Miller. Il engage un nouvel avocat, David Moran, pour faire appel de la décision.
C'était une affaire singulière. Il y avait énormément d'éléments qui n'avaient pas de sens. Dès le départ, j'ai commencé à les remettre en question.
David Moran s'attaque aux méthodes de la poursuite. Il soutient qu'on a offert un traitement de faveur à Rodney Mays en échange d'un faux témoignage. Mais l'avocat ébranle surtout le tribunal en présentant le rapport du pathologiste oublié depuis longtemps.
On avait dit aux enquêteurs que le tueur qu'ils recherchaient était stérile.
Gabriel Ferris n'a jamais subi un test de fertilité. On lui en fait passer un et le résultat lui est favorable. De toute évidence, il n'est pas stérile. David Moran veut ensuite faire comparer l'ADN de son client avec celui du sperme monté sur les lames de microscope en 1974. Cela prouverait son innocence, mais les lames ont disparu depuis des années.
On avait envoyé les lames au laboratoire médico-légal de la police du Michigan. Mais selon le technicien qui avait reçu les lames sur place, elles avaient été montées incorrectement, si bien qu'il les avait jetées. On aurait aimé avoir en main ces preuves matérielles.
En août 1999, on renverse la condamnation de Gabriel Ferris et on lui accorde un nouveau procès. Il passera les quatre années suivantes en prison pour retourner devant le tribunal en février 2004. Il a alors 54 ans.
Le deuxième jury a failli atteindre une majorité, mais en vain.
Je n'aurais jamais cru que le jury serait bloqué.
En mai 2004, 30 ans après le meurtre sauvage de Cheryl Miller, le troisième procès débute. Gabriel Ferris est maintenant représenté par Dan Willman. L'avocat de la poursuite est Jeff Stroud.
Evidence keeps pointing to Gabe Ferris.
Jeff Stroud appelle à la barre les mêmes témoins qui attestent les confessions et le comportement bizarre de Gabriel Ferris au fil des ans. La défense met en doute leur habileté à se souvenir précisément au bout de 30 ans des événements qui ont eu lieu alors qu'ils étaient sous l'influence de la drogue et de l'alcool. Dan Willman rappelle aux jurés qu'aucun des cheveux et des poils recueillis sur le corps de Cheryl Miller n'appartenait à son client. Ce dernier aurait pu laisser ses empreintes sur la commode lors de leurs nombreux rapports sexuels. L'avocat de la défense avance une théorie différente sur l'identité du tueur. Il suggère que le vrai coupable serait Tony Alvarez. Mais la poursuite explique pourquoi on a trouvé des poils et des cheveux foncés sur la victime et non pas ceux de Gabriel Ferris.
Les agresseurs ne laissent pas tous des cheveux et des poils sur place. Un être humain en perd une centaine par jour, mais pas toujours durant un crime.
La poursuite soutient que les poils et les cheveux prélevés sur la victime provenaient du tapis sur lequel a eu lieu l'agression. Cheryl Miller donnait souvent des fêtes et elle avait bien des partenaires sexuels. Alors il y avait beaucoup de circulation dans sa chambre. Au fil du temps, les visiteurs ont laissé des poils et des cheveux sur le tapis qui ont été transférés sur le corps de la victime pendant le meurtre. Ne se laissant pas démonter, Dan Willman ébahit la cour avec un nouvel élément de preuve. Son équipe a retrouvé les lames de microscope contenant du sperme. Le pathologiste les avait jadis utilisées pour établir que le tueur était stérile. En comparant le sperme des lames avec l'ADN de Gabriel Ferris, on pourrait prouver qu'il est innocent.
Disons que Gabe Ferris était assez certain de gagner son procès en appel.
Il semble que Gabriel Ferris sera bientôt libéré après avoir passé 8 ans en prison pour un crime qu'il affirme ne pas avoir commis. Durant l'autopsie de Cheryl Miller, on avait analysé du sperme sur des lames de microscope. Ces éléments de preuve, qui avaient été perdus, semblaient indiquer que le tueur était stérile. Mais tout comme en 1974, l'expert en criminalistique Richard Bisbing doute des conclusions du pathologiste. Richard Bisbing était lui aussi d'avis que le sperme sur les lames ne contenait pas de spermatozoïdes. Mais il croit que le pathologiste a commis plusieurs erreurs en concluant que le tueur était stérile. La stérilité ne peut pas être prouvée avec un simple examen microscopique.
Il aurait fallu procéder à une analyse chimique pour certifier s'il s'agissait de sperme et non d'un autre liquide. C'était peut-être des sécrétions de la victime.
Les porte-cotons qui ont servi à monter les lames auraient pu fournir à Richard Bisbing l'échantillon nécessaire à l'analyse chimique. Mais le pathologiste avait jeté les porte-cotons avec lesquels il avait étalé les frottis.
C'était impossible de confirmer qu'il s'agissait de sperme à partir de ces frottis. On ne pouvait pas non plus déterminer le groupe sanguin.
Puisque le pathologiste n'a pas respecté la procédure, l'argument de la stérilité n'est pas admis. La défense persiste. Elle déclare qu'en testant l'ADN du liquide sur les lames, peu importe sa nature, on prouvera qu'il ne provenait pas de Gabriel Ferris. Mais le médecin légiste en chef du comté de Saginaw surprend la cour en témoignant. Selon lui, on ne peut pas faire les tests d'ADN parce que l'agent de fixation qu'avait employé le pathologiste pour préserver les lames a détruit le matériel génétique qu'elle renfermait. Le nouveau témoignage de Terry Fick mine aussi les arguments de la défense. Elle explique pourquoi son ex-mari n'aurait pas pu laisser de liquide séminal sur les lieux.
D'après elle, avant l'éjaculation, il se retirait et il ne complétait pas le coït.
He would then go into the bathroom and finish himself there.
La poursuite présente au jury sa théorie sur les faits du meurtre.
Gabriel Ferris a dû faire le long trajet de Augury au Michigan jusqu'à Saginaw pour aller voir cette jeune femme.
Quand il a su que Cheryl Miller était au bar The Scene, Gabriel Ferris aurait attendu dans le stationnement jusqu'à ce qu'elle parte. Il l'aurait vue rentrer seule chez elle. Il serait entré dans la maison par la porte de cuisine déverrouillée.
Il a eu une confrontation avec Cheryl. Elle devait être contrariée parce qu'il venait de se marier. Elle lui a dit de partir ou ils ont eu une prise de bec.
Gabe, what are you doing here? No, Gabe, get out. Get out. You're supposed to be home with your wife. Get out. Out of my house. Get out of my house.
Monsieur Ferris n'était pas satisfait.
Il aurait forcé Cheryl Miller à avoir un rapport sexuel avec lui. Puis il aurait perdu la tête en l'étranglant pour augmenter son excitation. On pense qu'il n'a pas éjaculé ou qu'il l'aurait fait aux toilettes. Mais à son retour, il aurait été trop tard.
Monsieur Ferris a probablement paniqué. En se levant, il a dû laisser de belles empreintes sur le tiroir du bas de la commode.
Accablé de honte pour ce qu'il avait fait, il aurait couvert le corps de Cheryl avec des sous-vêtements pris dans son tiroir.
Ensuite, il est redescendu. Il a simulé une entrée par effraction. Puis, il est reparti vers le nord pour reprendre sa lune de miel avec sa femme.
Okay.
Le jury délibère pendant 2 jours et demi avant de livrer son verdict.
We find the defendant, Gabriel Ferris, guilty of felony murder.
Je suis content de savoir que Gabe Ferris sera en prison jusqu'à sa mort.
Je peux maintenant dire aux proches de Cheryl que l'individu qui l'a tué paie enfin pour ce qu'il a fait. C'est bien de savoir qu'on permet aux membres de sa famille de faire la résolution de leur deuil. Il nous a fallu 20 ans pour y arriver.
Gabriel Ferris purge une peine à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour le viol et le meurtre de Cheryl Miller.